Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Aglété. Direction aujourd'hui le Pays Basque avec nos partenaires de Médias Basques pour un papier qui s'intitule « Quand des femmes se révoltaient au XVIIIe siècle », c'est vous qui en êtes l'auteur. Bonjour Chimoun Lar.
Bonjour.
Chimoun, dans cet article, vous revenez donc sur un épisode méconnu, on va d'ailleurs tenter de comprendre pourquoi, des révoltes de femmes qui ont marqué le Pays Basque au XVIIIe siècle. D'abord, est-ce qu'on peut rappeler quelques dates des révoltes les plus marquantes, avant d'entrer un peu plus loin dans le détail? Et pouvez-vous aussi nous dire ce qui a motivé ces révoltes dans les grandes lignes, bien sûr?
Alors, ce sont des révoltes qui s'étalent tout au long du XVIIIe siècle. La première dont je parle se déroule en 1709 et ça se poursuit jusqu'à la veille de la Révolution, en 1784. Alors, sur les motivations de ces révoltes, on est sur des révoltes d'ordre fiscal, hein. C'est pas du tout des révoltes avec des revendications politiques. Mais pour comprendre un petit peu quand même comment ça marche, comment ça fonctionne, il faut juste faire un petit rappel sur ce qu'est le Pays Basque à cette époque-là, en tout cas dans sa partie nord. On a trois provinces, Labourd, Basse-Navarre et Soule, qui sont incorporées assez tardivement à la couronne de France. Deux d'entre elles, le Labourd et la Soule, parce qu'elles ont appartenu au Moyen-Âge, donc à la couronne d'Angleterre, comme tout le Grand Sud-Ouest. Et la troisième, la Basse-Navarre, qui est en fait la survivance de l'ancien royaume du Navarre qui s'est étalé des deux côtés du Pyrénées. Et chacune de ces trois provinces garde encore une large autonomie, on va dire politique, administrative et surtout fiscale. Et au XVIIIe siècle, enfin à partir de Louis XIV, quand la France est engagée dans de nombreuses opérations militaires, de nombreuses guerres qui coûtent pas mal d'argent, et qui va essayer de financer tout ça par l'impôt, elle va essayer à un moment donné d'imposer de nouvelles taxes dans ces provinces du Pays Basque, qui, elles, jusque-là, avaient leurs petits privilèges fiscaux. Et évidemment, c'est ça qui va déclencher ces révoltes-là.
Et Chimoun, je rappelle pour nos auditrices et auditeurs que lorsque vous parlez du Pays Basque Nord, c'est la partie française, bien sûr, du Pays Basque. Alors, ces révoltes populaires ont pour particularité d'avoir été menées par des femmes. Comment l'expliquer?
Alors, il faut juste d'abord faire un petit rappel. Ces révoltes populaires de femmes, elles ne sont pas propres au Pays Basque. C'est quelque chose qu'on retrouve au XVIIIe siècle ailleurs en France. Il y a des exemples, notamment, je pense, il y a une révolte assez célèbre à Brest. On pense évidemment à la Révolution française. Il y a des journées voilà, comme ça, qui sont marquées vraiment par les moments où les femmes prennent la rue. Alors, pourquoi les femmes? En fait, ça rejoint ce que je disais au départ. Hein, on est sur des révoltes fiscales. Ça laisse à penser qu'à partir du moment où on touche au cordon de la bourse dans le foyer, voilà, ce sont les femmes qui se révoltent en premier. Pourquoi? Il faut faire un petit rappel historique sur la place de la femme au Pays Basque à ce moment-là. Dans le droit coutumier basque, on est à cette époque-là dans une société encore largement rurale, hein, très, très paysanne, qui est basée sur la maison, l'etxe en basque. Et contrairement à beaucoup d'autres provinces, la femme basque a une certaine place, une certaine importance, puisque dans le droit coutumier basque, c'est toujours l'aîné qui hérite de la maison, pour ne pas diviser les biens, qu'il soit garçon ou fille, ce qui donne à la femme basque une certaine importance dans le foyer. Par contre, il faut quand même rappeler, il y a certains débats historiques sur ça, il ne faut pas non plus fantasmer cette position-là. Hein. À l'intérieur du foyer, la femme basque a son importance, mais pour le reste, dans les institutions politiques, administratives, etc., on reste quand même sur une société patriarcale. Mais le fait qu'à la maison, ce soit la femme est prosaïquement celle qui peut tourner la marmite. Donc, à partir du moment où on essaye d'imposer une nouvelle taxe et on touche au cordon de la bourse, c'est elle qui est concernée en premier et ça peut expliquer finalement que ce soit la femme qui se révolte en premier. Ouais.
Et face à ces révoltes, quelle était la position des hommes? Étaient-ils solidaires de leurs femmes, de leurs mères, de leurs sœurs, de leurs épouses? Ou subissaient-ils plutôt leur prise de position?
Alors, Comme les sources sont assez lacunaires, on a peu de choses quand même sur la position des hommes. Mais on a quand même quelques, par-ci par-là, quelque chose qui ressort. Et il y a une chose assez intéressante qui ressort à un moment donné. Il y a en 1748 une révolte comme ça en Pays de Cise. Pays de Cise, c'est la région autour de Saint-Jean-Pied-de-Port. On a une révolte de femmes qui se passe. Bon, il faut plusieurs semaines, plusieurs mois avant que les autorités locales ramènent un petit peu le calme dans la région. Et une fois que tout ça s'est passé, ben, les notables et les autorités locales, justement, de la région vont écrire une lettre au roi pour dire deux choses. Un, ils vont désapprouver, évidemment, ce qui s'est passé. Ils se désolidarisent de cette révolte. Et puis, la deuxième chose, ça c'est intéressant, ça rejoint ce que je disais un peu tout à l'heure sur la place de la femme au Pays Basque. Ils vont dire, alors je reprends avec des mots actuels, mais ils vont dire, bon, on aurait bien aimé les faire rentrer, ces femmes, dans nos foyers, à la maison, mais déjà, en temps normal, on a du mal à commander un peu chez nous. En gros, c'est ça. Ça montre que finalement, les hommes, ils se désolidarisent et ils sont un petit peu en porte-à-faux par rapport à ça. Oui.
Évidemment, on ne va pas détailler toutes les révoltes que vous abordez dans votre papier. On laissera nos auditrices et auditeurs s'y référer. Mais vous en dénombrez au moins 5, parmi lesquelles certaines donnent lieu à des scènes inattendues. Je pense notamment à la révolte de 1709.
Oui, 1709, c'est un exemple qui est intéressant. Voilà, ça se passe à Bayonne. Il y a une rumeur qui arrive, comme quoi on va imposer un nouvel impôt, une nouvelle taxe. Et puis les femmes descendent dans la rue, bon, elles commencent à jeter des pierres contre les forces de l'ordre, et puis on arrête deux des meneuses de cette révolte. Et alors là, ça va faire qu'augmenter la révolte. Les femmes vont carrément s'emparer de la ville, elles vont bloquer la ville, et elles vont aller jusqu'à l'évêché, elles vont prendre l'évêque en otage, le séquestrer, et ce qui va faire qu'on va les forces de l'ordre vont être obligées de libérer les femmes qu'elles avaient arrêtées. Ça montre quand même l'audace et le courage de ces femmes qui avaient absolument peur de rien, quoi.
Vous parlez donc notamment de cette révolte de 1709, vous abordez aussi celle de 1748 dont vous venez de nous parler avec cette nouvelle levée d'impôts, cette nouvelle révolte et le rôle des hommes dont nous parlions tout à l'heure qui est à ce moment-là mis en évidence d'une certaine manière. Enfin, vous évoquez un autre épisode en 1784 cette fois, plus de 2000 femmes avaient levé les armes, hein, étaient prêtes à en découdre sur la base d'une simple rumeur, c'est ça ?
Alors, la rumeur, c'est souvent un moteur important de ces révoltes, parce que le fait qu'on veuille imposer une nouvelle taxe, parfois c'est fondé, parfois c'est pas du tout fondé. Parfois ça repose juste sur une simple rumeur. Et là, c'était le cas apparemment en 1784. On apprend qu'on va imposer la gabelle. Alors la gabelle, il faut quand même rappeler ce que c'est. C'était l'impôt le plus impopulaire peut-être en France sous l'Ancien Régime, hein, l'impôt sur le sel. Et qui était appliqué de diverses manières. Il y avait des pays de grande gabelle, petite gabelle, etc. Et comme je le disais au départ, ici, les trois provinces du Pays Basque rattachées à la couronne de France, elles étaient exemptées de gabelle. Donc évidemment, ça fait peur. Ça fait peur. Ouh là là, attention, la gabelle arrive. Et en quelques jours comme ça, ça suffit pour déclencher une révolte. Et à Asparin, il y a, d'après les chroniqueurs de l'époque, 2000 femmes qui vont se mettre en armes et se révolter. C'est énorme, puisque on reste sur une petite ville, hein, dans un petit bourg. Et les autorités font venir la troupe locale. Il y a l'intendant qui vient. L'intendant, c'est le représentant du roi, hein, un petit peu ce que serait un préfet à l'heure actuelle. Et ça va jusqu'au face-à-face. La tension monte, on va dire, de manière extrême. Et finalement, c'est le curé du village qui va réussir une médiation entre ces femmes et les soldats et qui va réussir un peu à faire retomber la tension. Mais il y a, pour terminer sur cette révolte, il y a une anecdote qui est assez, je trouve, croustillante parce que la révolte va quand même continuer pendant les semaines qui suivent dans les villages alentours et dans le reste de la province. Et là, il semblerait que les hommes aient participé aussi quand même. Et ce qui est marrant quand même, c'est quand les soldats arrivent, les hommes, il semblerait qu'ils se soient habillés en femmes à plusieurs reprises, en espérant un peu d'indulgence de la part des soldats qui venaient les arrêter, voilà. Donc c'est quand même assez cocasse, quoi. Don't you know, talking about a revolution, it sounds just where people gonna rise up, get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. 'Cause finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution.
Simone, vous l'écrivez, ces révoltes de femmes au Pays Basque ont été spectaculaires et régulières au XVIIIe siècle. Pourtant, elles occupent une place presque inexistante dans les livres d'histoire. Comment expliquer ce paradoxe ?
Bon, la première raison, je pense, c'est quand même que pendant très longtemps, l'histoire a été écrite par les hommes. En fait, les sources qu'on a de l'époque sont exclusivement masculines. Et déjà, elles portent un regard très négatif sur ces révoltes. puisque les chroniqueurs de l'époque ont des mots assez durs contre ces femmes. Ils parlent voilà, de mémoire de l'Ali du peuple, ou enfin, c'est des termes souvent péjoratifs. Et donc, vu que voilà, les hommes ont écrit l'histoire pendant longtemps, ils n'ont pas peut-être jugé bon de faire rentrer ça dans les livres d'histoire. Certainement aussi qu'il manque peut-être un coup d'éclat ou une révolte qui a vraiment marqué les esprits. En comparaison, par exemple, au moment de la Révolution française, il y a des grandes journées où les femmes ont joué des rôles capitales. Mais pour faire un pont avec notre époque aujourd'hui, finalement, à l'heure où voilà, toutes les questions liées au féminisme sont vraiment aujourd'hui dans l'actualité, ça serait peut-être le moment de se repencher sur cette période et de remettre un peu tout ça en lumière. Ouais.
Justement, est-ce que des actions sont aujourd'hui entreprises pour tenter de réhabiliter la mémoire de ces femmes révoltées ? On pense peut-être notamment au Basquel, hein, dont on a déjà parlé, grâce à Média Basque d'ailleurs. Est-ce qu'il y a donc des actions qui sont en cours ?
Alors, oui, pour parler des Basquel, c'est pas directement lié à ces révoltes, mais c'est contemporain à ces révoltes. Elles ont exhumé, juste avant la Révolution, au moment où on écrivait les cahiers de doléances, elles ont exhumé un cahier écrit par des femmes de Saint-Jean-de-Luz, voilà, qui avaient... rédigé entre elles toute une série de doléances, et là, qui dépassait comment dire, les questions fiscales que j'évoquais tout à l'heure, là où c'est quand même plus politique, plus féministe. Et elles ont exhumé, en fait, une copie de ce cahier de doléances, et elles sont à la recherche maintenant de l'original. Donc, je pense qu'elles vont essayer de mettre en lumière tout ça, et peut-être les révoltes qui vont avec. Ensuite, finalement, il y a peu de choses. Tout à l'heure, j'évoquais la révolte, on parlait de la révolte d'Asparin. Il y a quelques années, il y a eu à Asparin, il y a une fête qui se déroule tous les deux ans qui s'appelle Lingua Asparnée, c'est-à-dire Asparin autrefois, où on montre un petit peu la vie d'autrefois, mais d'un côté un peu, entre guillemets folklorique. Et il y a quelques années, ils ont joué, ils avaient exhumé, là-bas aussi, ils avaient oublié, pourtant, hein, dans ce village, ils avaient oublié cette histoire, mais ils ont exhumé cette fameuse révolte de 1784, ils ont rejoué une scène dans la rue. Mais ça reste, entre guillemets, un petit peu folklorique, sans aller beaucoup plus loin, peut-être.
Pour quelle raison avez-vous, vous, souhaité reparler aujourd'hui de ces révoltes de femmes ?
Alors, en fait, cet article s'inscrit dans une série qu'on avait débutée l'année dernière, dont le thème était en fait de ressortir un peu de l'oubli des hommes et des femmes qui ont écrit l'histoire un peu à leur manière ou qui ont eu des destins un peu singuliers. Et dès le départ, l'idée, c'était quand même de respecter la parité. Je me suis rendu compte très vite que c'était assez facile d'exhumer l'histoire des hommes, parce que voilà, c'est toujours pareil, les hommes, ils occupent une place, on va dire, décuplée dans l'histoire, et dès qu'on s'intéresse à la place des femmes, c'est plus difficile de trouver des exemples. Et je trouvais intéressant, c'était vraiment la fin de la série, c'était le dernier opus, et de ne pas parler d'une femme en particulier, mais de toutes les femmes anonymes, de ces foules de femmes qui ont eu le courage à un moment donné, et qui ont eu l'audace, comme on disait tout à l'heure, de se révolter en ce XVIIIe siècle.
Et vous avez donc fait parler votre passion de l'histoire, vous qui, par ailleurs, avez publié une nouvelle au bois de la tuerie en hommage à votre grand-oncle mort au front durant la Première Guerre mondiale. Merci beaucoup, Shimoun Lahr, d'avoir répondu aux questions de Podcasting. Votre article, je le rappelle, s'appelle « Quand des femmes se révoltaient au XVIIIe siècle ». Il est à retrouver dans les colonnes de Média Basque. C'est la fin de cet épisode de Podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Etchari et Marion Ruot. Iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Taïeb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.